Bonjour, bien-aimés. Il est 10h, nous allons commencer notre culte. On remet ce moment entre les mains de Dieu. Dieu, notre Père, merci encore pour cette grâce que tu fais à chacun de nous d'être présent aujourd'hui dans cette pièce. Merci parce que tu nous as devancés. Merci parce que tu nous as préservés toute cette semaine. Nous voulons encore te rendre gloire, honneur et louange. Nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance en ce matin. Nous voulons vraiment faire monter vers toi toute notre adoration. Nous voulons aussi t'écouter et nous parler plus tard à travers la bouche de ton serviteur. Alors merci de nous disposer. Merci encore de nous bénir en ce matin. Tu puisses rendre plaisir à tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait dans cette salle. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que Dieu nous a bénis, il nous a bénis tout au long de la semaine et nous devons vraiment connaître qui est le Dieu que nous servons, qui est le Dieu que nous aimons, qui est le Dieu que nous disons que nous servons. Il y a une dizaine de jours de cela, en fait, il y a un texte que je médite et il me semble que c'est le même texte que les femmes, elles ont lu hier lors de la réunion des femmes. Alors, si je dis que nous allons lire le psaume, vous me répondez 34, c'est très bien, vous suivez, ça fait plaisir. Donc, c'est un texte que j'ai médité depuis une dizaine de jours, et c'est un texte qui est très, très riche. Et nous savons que nous servons un Dieu qui est très, très grand. Et David, à travers ce psaume, il prouve, il montre comment ce Dieu, il est grand. Alors, nous allons lire ce psaume, le psaume 34, dans la version Louis II. Il est dit ceci. Psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Ce psaume 34, comme tous les autres psaumes, c'est un très très beau psaume. Mais quand on le lit, il faut qu'on prenne du temps à l'étudier. Pour ma part, ce psaume-là, je l'ai souvent lu et je vous avouerai que... Est-ce que vous avez compris le premier verset ? Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec. Pour ma part, ce verset-là, je l'ai toujours compris de la façon il a contrefit, donc comme si en fait il avait remis en place un insensé. Je me suis toujours posé la question, c'est qui cet insensé? D'où la question de se poser la question sur les textes que nous lisons, d'essayer de comprendre. Tout le texte, il est très très bien. Dans son ensemble, il est très très bien. Mais si on n'a pas compris le premier verset, on a raté une grande partie de la compréhension du texte. Donc je me suis toujours posé la question, qui est cet insensé que David contrefie? Et c'est une question qu'on peut se poser. Et si on reste sur cette version, cette compréhension, on passe à côté. Donc en lisant dans d'autres versions, donc d'où la recherche, dans la version Semeur par exemple, il est dit, lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec, qui le chassa de sorte que David put s'en aller. Dans un autre, il est dit, lorsqu'il se fit passer pour fou. Donc, lorsqu'il contrefit l'insensé, c'est pas quelqu'un qui l'a remis à sa place. David s'est fait passer pour fou. Nous allons voir pourquoi, dans quel contexte est-ce que David s'est fait passer pour fou. Donc, pour remettre ce texte dans son contexte historique, il faut savoir que Saül, il avait été choisi comme roi par l'Éternel. Mais il s'avère que Saül a désobéi à l'Éternel. Donc Dieu avait décidé de remplacer Saül par David. Saül le savait et il l'a tout fait pour tuer David. Donc Saül poursuivait David pour le tuer. Mais David, qui à plusieurs occasions a pu tuer Saül, on lui a même proposé de tuer Saül, il a refusé. Parce que David savait que Saül était choisi par l'Éternel. Saül, c'était loin de l'Éternel. Et il respectait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il n'a pas voulu faire du mal à Saül. C'est pour ça que, alors qu'il pouvait le tuer, il a préféré fuir. David a fui devant Saül. David était tellement désespéré. Vous savez où est-ce qu'il a fui? Il a fui à Gath. Vous savez, c'est où Gath? Pour faire en partie une. Gath, en fait, c'est chez les Philistins. Gath, c'est la ville de naissance de Goliath. David s'est réfugié là où il a tué Goliath, là, la ville de naissance de Goliath. De nos jours, il suffit que vous habitiez un quartier, vous franchissez une rue, les personnes qui habitent de l'autre côté de la rue estiment que c'est un motif de vous lyncher. David, c'était l'ennemi public numéro un des Philistins. David s'est réfugié chez les Philistins parce qu'il craignait de faire du mal à Saül. David, à un moment donné, il a eu peur qu'on le reconnaisse. David a été reconnu. Donc, vu qu'il avait tué Goliath, vous imaginez quel sort lui serait réservé si on le trouvait. David a été reconnu et on l'a présenté devant Abimélec. Qu'est-ce qui s'est passé? David, il a simulé la folie. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à lire le texte plus tard, comme vous voulez. 2 Samuel 21, versets 10 à 15. David a fait en sorte de laisser la salive couler sur sa barbe. Il s'est mis sur les portes, il a commencé à griffer les portes. Il s'est fait passer pour fou. Et Abimélec, effectivement, a dit, effectivement, lui, c'est bien David. Mais j'ai déjà assez de fous dans mon pays pour accueillir celui-là. Laissez-le partir. On dit que Dieu a disposé le cœur d'Abimélec pour sauver David. C'est pour ça que dès le deuxième verset, David dit: Je bénirai l'Éternel en tout temps. Dieu a épargné David. Dieu a béni David. C'est pour cela qu'il dit: Je bénirai l'Éternel en tout temps. Il ne dit pas qu'il bénira l'Éternel seulement quand tout ira bien dans sa vie, quand l'Éternel le bénira. Non, il dit en tout temps. Même lorsque sa vie est en danger, il bénira l'Éternel. Et la deuxième partie du verset 2 nous dit, Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il a dit, Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il n'a pas dit pas une autre louange, pas la louange pour les hommes, pas la louange pour quelqu'un, mais Sa louange sera dans ma bouche. Pas la calomnie, pas les paroles trompeuses, pas les critiques, pas les mensonges, mais Sa louange qui sera dans ma bouche. David aurait pu calomnier Saül. Il aurait pu critiquer Saül. Il ne l'a pas fait. Alors qu'il avait, on aurait pu dire qu'il avait toutes les excuses, toutes les raisons de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Donc sa louange, elle ne sera pas seulement de temps en temps, mais toujours dans sa bouche. Si nous avons tendance à négliger la louange, il faut savoir qu'à travers la louange, il y a une puissance. Je m'écarte juste du texte pour revenir dans quelques instants. Donc dans Actes 16, 25 à 26, il est dit. C'est l'histoire de Paul quand il était emprisonné. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pardon. Si nous sommes intègres envers l'Éternel, tout comme David l'a été, assurément, Dieu, il saura nous délivrer. Quels que soient les problèmes, problèmes familiaux, problèmes professionnels, problèmes relationnels, si nous sommes intègres envers Dieu, tout comme avec David, Dieu saura nous bénir. Dieu, il a délivré David de la mort, et nous, dans tout cela. Dieu, tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel de leur vie, Dieu nous a délivrés de la mort éternelle. Il y a la mort physique, mais il y a la mort éternelle. Dieu nous a délivrés de tout cela. C'est encore notre bonne raison que nous avons pour louer, pour bénir l'Éternel. Alors si en ce matin, je demande, ma sœur Viviane, est-ce que tu as une bonne raison de bénir l'Éternel ? Plein. Ma sœur Lisa, est-ce que tu as une bonne raison de bénir l'Éternel en ce matin ? Ma sœur Janine, frère Eric, est-ce que vous avez de bonnes raisons pour bénir l'Éternel ? Nous avons tout plein de bonnes raisons de bénir l'Éternel. Nous allons chanter un chant qui est tiré de ce psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons chanter ce chant.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il voit couler les larmes de leur cœur. Il entend les cris de leur douleur. Il les délivre de toute la détresse. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui, pas quand on tourne les regards vers les problèmes. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et Dieu délivre de toutes les détresses. Nous voulons nous rappeler de ce que Jésus il a fait pour nous à la croix, de qui il est, et nous voulons vraiment lui offrir toute la louange, toute la reconnaissance, car Jésus, il est digne. Nous allons chanter le 867, Jésus, tu es digne. Mmh.
Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, notre Père.
Amen. Amen. Nous voulons encore continuer à louer le Seigneur, louer le Roi à travers ce chant. Nous aurons un autre moment de louange et d'adoration dans quelques instants. Et nous voulons à travers ce chant, le 636, louer le Roi.
Sa mort nous a libérés,
Satan pensait avoir triomphé lorsque Jésus est mort, mais il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons très bien vivre notre vie comme on l'entend, mais Dieu, en fait, il faut qu'il soit notre ancre et notre voile. L'ancre, en fait, permet de stabiliser le bateau. L'ancre l'empêche d'aller sur les récifs. L'ancre l'empêche d'aller à la dérive. Et la voile permet de se déplacer au moment où il faut se déplacer, quand il faut se déplacer. Quand il n'y a pas de vent, la voile ne se déplace pas. Donc, Dieu, tu es mon ancre et ma voile. Nous allons chanter le 794.
Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton âme. Sois mon ancre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton. Ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voix.
Invite à vous asseoir et faisons monter encore vers Dieu notre adoration. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est à lui que nous avons rendu un culte en ce matin, en son honneur. Nous qui connaissons Dieu, nous qui connaissons, nous lui avons offert ce culte parce que nous le connaissons. Mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et nous nous devons aussi, puisque nous connaissons le grand Dieu véritable et vrai, de faire connaître à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Nous avons connu parce que des fois, des personnes ont prié pour nous. Nous avons peut-être des fois assisté à une réunion d'évangélisation et nous avons rencontré Dieu. C'est peut-être au cours d'une prédication, comme celle que nous allons écouter dans quelques instants. Nous nous devons de parler autour de nous, aux personnes, déjà à nos proches, dans la famille, notre entourage, à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous allons chanter le 376 sur la Trois de la Gloire. écouter l'appel du berger.
Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. De soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas sur nous, ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame.
Le bon berger les réclame. Nous espérons que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le rencontrer un jour, puissent connaître ce grand Dieu vrai et véritable que nous connaissons, que nous servons, voir que si aujourd'hui nous avons le souffle de vie, c'est grâce à lui. Beaucoup de personnes se donnent des raisons, des excuses pour rejeter Dieu. Mais quand on regarde, quand on constate tout ce qui est fait, quand on regarde chaque membre du corps, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime et qui attend. Il ne force personne, il veut que chacun l'accepte. Est-ce que nous connaissons ce Dieu? Juste avant de laisser la place à notre frère Émile qui va commencer à ouvrir son micro juste pour la prédication, je vais laisser la place à notre pasteur Serge pour l'introduction à la prédication.
Merci au groupe de louanges. Et j'ai pris, je demandais à Eric cette occasion pour prier pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre assemblée, pour ce qu'il fait pour notre famille. Au début du culte, et j'irai tout à l'heure à côté de Caroline, là où nous suivons le culte ensemble, je me suis un peu déplacé pour juste prendre ce temps pour prier, pour bénir aussi Dieu pour tous ceux qui servent Dieu dans notre église, qui ne ménagent pas le temps pour être là. Et c'est le cas du groupe de louanges que je veux vraiment remercier, bénir Dieu pour tous les frères, pour toutes les sœurs et pour Émile aussi qui va porter la parole tout à l'heure à notre cœur. J'aimerais donc prier maintenant pour introduire ce temps. C'était juste une occasion pour nous de dire, voilà, nous sommes là avec vous, même si nous ne sommes pas présents dans la salle, mais nous sommes là et nous suivons depuis plusieurs dimanches déjà. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. C'est toi qui connais le prix d'une âme et nos âmes ont été sauvées par toi. Tu nous as cherchés et tu as créé des occasions favorables pour que l'Évangile atteigne nos oreilles, notre cœur et tout notre être entier. Et tu nous as donné de répondre favorablement. Nous sommes vraiment au bénéfice de cette grâce, car nos cœurs sont touchés par Dieu, transformés dans ce beau projet d'amour de Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants ce matin d'être des enfants de Dieu et de pouvoir nous disposer pour prêcher cette bonne nouvelle pour que d'autres entendent et qu'ils deviennent aussi des enfants de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour ma famille, pour ta grâce qui a été sur nous. Tu nous as protégés, tu nous as bénis comme toutes les autres familles de l'Église, dans toutes les bénédictions dont nous avons été vraiment l'objet, mais aussi dans toutes les épreuves dans lesquelles nous avons pu compter sur toi. Que ce temps qui vient maintenant, après t'avoir loué, t'adoré, que nos cœurs soient ouverts et que ta parole qui va être prêchée par ton serviteur Émile, Seigneur, que cette parole porte de fruits dans nos cœurs, que les mots, que les expressions, que le texte que tu as mis dans son cœur pour nous ce matin soit un texte qui nous fasse du bien. Ce bien-là, c'est une bénédiction, c'est une correction, c'est une réprimande. C'est toi qui es notre Père et tu nous parles parce que tu connais chacune de nos situations. Alors parle-nous encore ce matin. Que nos cœurs, Saint-Esprit, dispose nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Et que tout ce temps de culte soit sous ton doux regard, par ta présence, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Je laisse maintenant la parole à notre ancien Émile.
Bonjour à tous, bonjour bien-aimés.
Oui.
Est-ce que je suis entendu?
Oui.
Merci. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont à l'église et ceux qui sont aussi dans leur maison. Que Dieu bénisse sa parole que nous allons partager. J'ai une question pour nous tous. Qui est Dieu? Est-ce que je connais Dieu comme je devrais le connaître? Cela pour le servir. Dans sa parole, Dieu dit en Marc 12, et cela c'est dans la bouche d'un scribe qui dira, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Il dit cela parce que dans ce même chapitre 12, Jésus lui avait répondu que le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Les Écritures ne cessent de parler de Dieu et de nous révéler sa nature. Pour servir notre Dieu, il faut le connaître. Nous sommes sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Il faut croire que Dieu existe. Nous pouvons nous poser la question, comment est Dieu? Quel nom Dieu se donne-t-il lui-même dans les Écritures? Et nous allons voir quelques textes. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Nous le savons tous, Dieu, et nous prions dans nos prières, dans nos reconnaissances à Dieu, notre reconnaissance, quand nous l'adorons, nous disons que le Dieu Tout-Puissant. Cela dans Genèse 17, verset 1. Dans le psaume 95, il est l'Éternel, notre Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. En Luc 11, il est notre Père. En Timothée 6, 15, il est souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs. En Ésaïe 45, si nous pouvons avoir ce texte affiché, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs des vérités que l'on peut y trouver et qui concernent Dieu. Ésaïe 45, 18 à 22, verset 18. Il est le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a créée. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Verset 19. Je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Verset 21, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous, vous serez sauvés, vous tous. Je pense que dans ce tous, nous y sommes déjà. par sa grâce. Et vous serez sauvés, vous tous, qui êtes jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous savons que Dieu demande que sa parole soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Que pouvons-nous découvrir d'autre sur Dieu? Il y a d'autres textes qui parlent de lui et qui disent que c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Cela est dit dans Ésaïe 40, 28. Il dit aussi dans Ésaïe 46, 40, verset 9, « Rappelez-vous du lointain passé, car je suis le Dieu, le Tout-Puissant. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu. Et rien n'est semblable à moi, nul n'est comme moi. » Et nous connaissons ce texte de Jean 4, 24 qui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit. Voyons quelques versets qui correspondent à sa personnalité ou, comme on dit, aux attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Dieu est tout puissant. Je l'ai entendu dans nos prières ce matin. D'éternité en éternité, tu es Dieu, dit le psaume 90, verset 2. Jérémie 12, 32, verset 17, dit « Seigneur, éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. » C'est Jérémie 32, 17. Bien-aimé, quand nous regardons la création, il est possible de voir toute la puissance de Dieu, toute la grande puissance, comme dit Jérémie, de Dieu. Qui est Dieu? Le psaume 115, verset 3, déclare « Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et dans Apocalypse 4, verset 8, il a dit ceci, « Les quatre êtres vivants qui sont devant lui sont remplis de Dieu au-dedans et autour. Ils ne cessent de dire nuit et jour, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est, celui qui vient. » Voilà qui est Dieu, celui qui était, qui est, qui vient. Et les quatre êtres disent plus loin, « Tu es digne, ô notre Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté que ces choses existent, parce que c'est toi qui les as faites. Dieu est au ciel, mais il fait tout ce qu'il veut. » C'est-à-dire que personne ne peut contrecarrer sa puissance ni sa volonté. En lisant le livre de Job, j'ai pu observer que chaque fois qu'il parle du Seigneur, il ne l'appelle que d'une seule manière, le Tout-Puissant. Nous connaissons l'histoire de Job. Il appelle le Tout-Puissant. Aucune autre manière, le Tout-Puissant. Et cela, j'ai compté, il le dit 32 fois. Je ne sais pas si je me suis, si le compte est bon, mais j'ai compté 32 fois, il dit le Tout-Puissant. Il ne l'appelle que comme ça. Et nous savons ce qu'a subi Job. Job va découvrir la liberté de Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il est au ciel, mais il fait tout ce qu'il veut. Il va découvrir aussi la compassion de Dieu, malgré sa situation. Dieu ne nous est redevable de rien. Job 41, verset 1 à 3, il est dit « Qui donc oserait me tenir tête? qui m'a rendu un service, c'est pour que j'aie à payer en retour. Tout ce qui est sous le ciel est à moi. Dieu connaît toutes choses, bien-aimés. Dieu connaît toutes choses. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Il est celui qui a la connaissance totale de lui-même et de toutes choses. Pouvons-nous imaginer qu'avant même d'ouvrir la bouche, Dieu connaît ce que tu vas dire? Cela dans le psaume 139 que nous allons afficher, 139 versets 1 à 6. Oui, Dieu connaît ce que tu vas dire. Verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin même ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ta main est sur moi. Verset 6. Une telle science est merveilleuse. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Dieu a une connaissance totale de toutes choses. Que nous a-t-il dit? Ne multipliez pas des paroles vaines. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quand vous vous trouvez dans des difficultés, aussi minimes que cela peut être, vous avez tendance, nous avons tendance à croire que Dieu ne le sait pas. Et parfois même à vous décourager. Dieu le sait. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Il est à côté de nous. Notre Dieu est au ciel, et nous l'avons dit, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est un Dieu souverain. Lorsque nous voyons la guerre, lorsque nous voyons la pandémie que nous vivons actuellement, les inondations que nous voyons en France comme ailleurs, les gens se posent la question, où est Dieu dans tout cela? Il est présent en tout temps dans sa création. Et il intervient continuellement. C'est que nous sommes tellement habitués au fonctionnement naturel de la vie que l'on ne prend pas conscience de ces merveilles. Il y a des choses qui sont difficiles, nous pouvons l'admettre. Il y a des choses qui sont difficiles. De tout ce qu'on peut voir et entendre dans cette période où nous vivons, qui fait que les gens se révoltent. Mais Dieu sait tout. Quand Jésus enseigne comment prier, et dans Matthieu 6 que nous connaissons, il dit « À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Dieu est souverain. Donc il règne sur toutes choses pour que la gloire lui revienne à lui seul. Et Jésus le dit bien, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Cette gloire doit pouvoir revenir à Dieu. Que nous a-t-il dit? Toujours dans Matthieu 6, ne multipliez pas de vaines paroles. Votre Père sait, il n'y a rien qui lui échappe. Dieu est présent partout. Jérémie 23, 24 dit « Quelqu'un se cacherait-il sans que je voie? Ne remplis-je pas les cieux et la terre? » Nous pouvons prier ici, dans nos maisons, à l'église, ailleurs, en d'autres lieux, partout. Il est là. Il est là. Et partout, et au même instant. Une leçon que j'avais retenue quand j'ai commencé le catéchisme, la leçon qui m'avait touché le plus et qui, d'autres personnes ont peur de la mort, d'autres ont peur de l'enfer, mais moi, quand j'avais ma leçon qui concernait Dieu, qui disait, fais attention, Dieu te voit, Dieu sait tout, il entend tout. Et on avait comme règle, ne mens pas, ne vole pas. Et cela, c'est quelque chose qui m'a toujours, disons, je ne dirais pas que ça m'avait fait peur, mais je faisais attention à cela, ne pas mentir, ne pas voler. Et c'était comme une crainte en moi-même. Mais j'ai pu aujourd'hui comprendre que la vérité est venue par Jésus-Christ. Oui, Dieu est présent partout, présent en tout lieu. C'est la vérité qui nous change. Il y a le mensonge ou la vérité. Dieu nous aime. Et c'est pour cela que vient dès l'enfance, il commence à nous préparer, à toucher nos cœurs. Et j'ai compris que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cela. La grâce qui accueille le pécheur et pardonne du péché. Et la vérité qui lui montre le chemin et le libère des ténèbres. C'est bien une grâce pour nous de pouvoir instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, selon la volonté de notre Dieu, parce qu'il veut que tout homme soit sauvé. Oui, Dieu est présent partout, en tout lieu. Où pouvons-nous aller pour qu'il ne nous trouve pas? Le psaume 139, c'est la suite de ce verset qui sera aussi affiché, nous montre que Dieu est là. Dieu est présent partout. Il est dit dans ce psaume, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. » Dieu est présent partout. Où pouvons-nous aller pour qu'il ne nous trouve pas? N'est-ce pas pour nous une sécurité plutôt que d'avoir peur? Dieu qui est là, qui veille sur nous, pour nous, c'est une sécurité, bien-aimé, de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Jésus, en Matthieu 28, dit, « Je ne vous laisse pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Où que nous soyons, Dieu est avec nous. Quelqu'un se cachera-t-il sans que je le voie? Ne remplis-je pas les cieux et la terre? Jérémie 32, verset 17. Dieu est présent en tout lieu et au même instant. Cela, personne ne peut l'être. Dieu seul est présent en tout lieu et au même instant. Celui qui ne le recherche pas risque de ne pas le percevoir, voire même nier de son existence. Dieu est éternel. Le psaume 90, verset 2 dit, « Avant que les montagnes soient nées et que tu les aies créées, la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu ne change jamais. Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change jamais. David mentionne plusieurs faits sur Dieu dans le livre de Chroniques, 1 Chroniques 29. Il est le Dieu d'Israël. À lui la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Il y a toujours la gloire qui revient dans les textes. La gloire. Tout lui appartient au ciel et sur la terre. À lui le règne, la richesse et la gloire, la force et la puissance, le pouvoir d'agrandir, d'élever, le pouvoir d'affermir, de fortifier toutes choses. Nous avons vu la personnalité de Dieu, ses attributs. Voyons quels sont les reflets dans nos vies, dans notre vie, par rapport à la personnalité de Dieu, parce que nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Les attributs de Dieu qui disent que Dieu est fidèle. Si Dieu est fidèle, nous devons lui faire confiance. Nous devons avoir la foi. Notre foi devrait être entière dans toutes les circonstances, même celles qui nous paraissent douloureuses, et dépendre totalement de Dieu. Parce qu'il est bon et sa bonté dure toujours. Sa fidélité de génération en génération. Dieu est juste et ses jugements sont équitables. Nous devrions être des hommes et des femmes honnêtes. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Dieu nous demande aussi d'être capables de pardonner, de nous pardonner les uns les autres, jusqu'à aimer nos ennemis. Il a dit que Dieu nous a appelés à être saints. Celui qui vous a appelés, lui, il est saint. Vous serez saints, car je suis saint, dit Dieu. Nous sommes appelés à la sainteté, à être purs, nous consacrer totalement à Dieu. Il a dit que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu veut que nous soyons lumière. Dieu est amour. Nous sommes appelés à aimer tout d'abord Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous devons aimer notre Dieu. Aimer notre Dieu. Et Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Nous devons nous supporter, demeurer dans l'amour, comme Jésus le demande. Croyez-vous que Dieu est souverain, que toutes choses lui sont soumises? Voyons comment les versets suivants proclament-ils sa souveraineté. Proverbe 21, verset 1, Dieu fait comme il veut, ce qu'il veut, quand il veut, nous dit Proverbe 21. Dieu décide et juge. Ésaïe 14, 27. Dieu choisit et décide dans sa puissance et sa volonté, nous dit Actes 26 à 28. Pour terminer, que fait Dieu? Qu'a fait Dieu? Deux Chroniques 16, verset 9 dit, c'est que l'Éternel promène ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur lui appartient entièrement. Acte 14, 17, Dieu n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles en donnant la nourriture avec abondance et en remplissant nos cœurs de joie. Hébreux 1, verset 1. Dieu a parlé par les prophètes. Hébreux 1, 2. Dieu a parlé par le Fils. S'est révélé en Christ. Ésaïe 54, verset 5. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète, s'appelle le Dieu de toute la terre. Luc 1, 68. Il est béni, le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite son peuple et lui envoie sa rédemption. Ésaïe 25, 1. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Éphésiens 1, 4 et 5. Il nous a choisis, avant la fondation du monde, dans son amour, à être pour lui des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance, sa grâce. Romains 4, 25. Jésus, notre Seigneur, a été livré à cause de nos chutes et ressuscité pour notre justification. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. Ésaïe 53, 5. Et ses blessures, ses meurtrissures, nous sommes guéris. En ses meurtrissures, en ses blessures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Grâce à ces souffrances, bien-aimés, il est possible d'obtenir le pardon des péchés, la paix, la guérison au nom de Jésus-Christ. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance et autorité dès avant tous les temps et maintenant. Amen.
Amen.
Que Dieu nous bénisse.
Merci.